Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair dans Le cœur sur la table.
Hello, je suis Mélanie Wanga et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous mettez du scotch sur la webcam de votre ordinateur ? Il y a encore 10 ans, personne ne se posait vraiment la question. Et puis, en juin 2016, Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, d'Instagram et de WhatsApp notamment, a été photographié à côté de son MacBook avec la webcam recouverte d'un scotch opaque. Personnellement, quand j'ai vu que Zuckerberg, qui a quand même l'air de s'y connaître un petit peu au rayon nouvelles technologies, craignait les cyberattaques au point de prendre ce genre de mesures, j'ai commencé à flipper. Bon, entre lui et moi, il y a un monde. L'homme est à la tête d'une fortune de plus de 70 milliards de dollars. Il est également la cible numéro 1 des hackers du monde entier, une proie de choix. Alors pourquoi cette parano autour de la sécurité sur Internet ? Parce qu'il n'y a pas que la webcam qui peut faire peur, il y a aussi les emails. Et en termes de sophistication de ce côté-là, on est passé du scam du cousin nigérian qui a 100 000 euros à te faire parvenir à de nouveaux types de mails autrement plus sophistiqués et adaptés à nos usages du web, à savoir les vidéos porno et les bitcoins. On y reviendra. Je ne suis pas très théorie du complot, mais ce genre de menace m'angoisse particulièrement. Sommes-nous sur écoute et sous observation perpétuelle ? Les hackers sont-ils à nos portes ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Il y a 2 semaines, j'ai reçu ce mail un petit peu bizarre. On vous le dit tout de suite, c'est du phishing. Ce hacker n'a rien sur les personnes qu'il contacte. Mais c'est un bon exemple de mail assez courant et on va vous expliquer pourquoi. Il commence comme ça.
Vous ne me connaissez pas et vous vous demandez pourquoi vous recevez ce mail, non ? Je suis un hacker qui a piraté vos appareils il y a quelques mois. Je vous ai envoyé un email depuis votre compte piraté. J'ai mis en place un virus sur le site pour adultes porno, et devinez quoi ? Vous avez visité ce site pour vous amuser. Vous savez ce que je veux dire.
Pour décrypter ce message, j'ai invité Arwa Biri, docteur en cybersécurité de l'Institut Mines Télécom, réserviste de l'éducation nationale et experte en big data. Petite note, comme il y a beaucoup de vocabulaire technique dans cet épisode, on vous a préparé un lexique dans la description de l'émission. Et j'ai donc demandé à Arwa Biri ce que veut dire le terme phishing et ce qu'il recouvre.
Alors, le phishing, en fait, c'est une manipulation qui agit sur vos sentiments pour vous pousser à agir rapidement pour cliquer soit sur un lien, soit aussi, du coup, ouvrir une pièce jointe.
Ça se matérialise comment ? Par quel type de trigger émotionnel ?
Alors, ça peut être plusieurs triggers. Un exemple, c'est une de vos amies, elle est allée aux États-Unis, et du coup, vous likez tout le temps ses photos sur Facebook, sur Instagram, et vous ne faites pas forcément super attention aux gens que vous incluez sur votre réseau Facebook. Donc, du coup, un attaquant qui utilise le phishing et le spear phishing en particulier, donc spear phishing lorsqu'il cible.
D'accord.
ils voient que, en fait, vous regardez assez souvent, vous likez assez souvent, vous commentez assez souvent. Donc, ils voient qu'il y a une relation un peu privilégiée entre vous. Et du coup, il peut utiliser ces informations-là pour faire un mail de phishing de sa part, donc elle qui est aux États-Unis et qui dit que, par exemple, elle s'est fait voler, qu'elle ne peut plus utiliser sa carte de crédit et que du coup, elle vous demande de alimenter une cagnotte avec une somme de 1 000 euros. Et vous, sur un sentiment d'urgence, qu'elle est en galère, qu'elle a besoin de vous, vous pouvez sauter le pas et le faire.
Donc, on a défini ce qu'est le phishing. J'aimerais bien qu'on revienne sur cet email que j'ai reçu il y a quelques temps. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qui les envoie en général ?
Alors, en fait, il y en a qui sont vraiment ciblés, donc du coup, qui surveillent effectivement, qui se connectent sur
un site. Qui sont plus évolués, en quelque
sorte. Voilà, ça, c'est vraiment les hackers qui ont fait l'effort, qui ont fait leur devoir et qui ont regardé d'un peu plus près pour voir vraiment qui accède à ces sites-là. Mais en fait, il y a des hackers qui font ça à l'aveugle. C'est-à-dire qu'ils l'envoient à des gens auxquels ils ont l'adresse mail. Et voilà, ils tentent le coup. C'est-à-dire que, et comme on sait que pas mal de gens accèdent à ce genre de site. Donc, du coup, des fois, c'est bon coup pour eux.
D'accord. Donc, s'ils le font quand même, ça veut dire qu'il y a des gens qui tombent dans le piège, au final.
Tout à fait. Il y a des gens qui payent. Mais c'est vraiment pas ce qu'il faut faire.
Pendant que vous regardiez des vidéos, votre navigateur Internet a commencé à fonctionner comme un RDP, ayant un keylogger, ce qui m'a donné l'accès à votre écran et à votre webcam. Après ça, mon logiciel a obtenu tous vos contacts et fichiers. Vous avez entré vos mots de passe sur les sites que vous avez visités et je les ai interceptés. Bien sûr, vous pouvez les modifier, ou alors vous les avez déjà changés, mais ça n'a pas d'importance. Mon virus l'a mis à jour à chaque fois.
Alors, qu'est-ce qu'un RDP ? Dont le hacker dans le mail
C'est un remote desktop protocol et donc du coup ça permet en fait de voir ce que vous voyez au niveau de votre poste de travail.
Et ça, quelqu'un peut avoir vraiment ce contrôle sur notre ordinateur sans qu'on sache.
Ça, c'est très possible. En fait, du temps que vous ouvrez un mail, vous cliquez sur un lien qui contient un malware, ça dépend de ce qu'il y a dans le malware, mais en fait, il y a des malwares qui peuvent prendre le contrôle total de votre poste de travail.
Sans qu'on le sache.
Sans que vous le sachiez, parce qu'en fait, votre consentement, vous l'avez donné lorsque vous avez cliqué. C'est-à-dire que parce qu'il ne peut être installé qu'avec votre consentement. Et votre consentement, c'est en fait vos droits au niveau de votre machine. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous l'installez. Et donc, c'est un consentement, mais vous n'étiez pas au courant.
D'accord. Mais du coup, ça veut dire que, par exemple, à l'heure qu'il est, quelqu'un peut contrôler ma webcam si j'ai cliqué sur un lien dans un mail et je ne le sais pas.
Ah oui, c'est en fait, c'est-à-dire que si vous avez reçu un mail de phishing et que vous aviez cliqué quelque part et que c'était un attaquant qui l'a envoyé, il se peut que quelqu'un soit depuis 6 mois, un an, en train de regarder. C'est possible. Et ça, en termes de possibilité, c'est possible.
Qu'est-ce qu'un keylogger dont le hacker parle ?
Le keylogger, c'est en fait un logiciel qui s'installe au niveau de votre poste de travail et qui permet en fait de loguer tout ce que vous écrivez. Et donc, du coup, par exemple, je sais pas, vous écrivez des emails, vous écrivez des choses qui relèvent de l'intime, que vous voulez pas forcément que ça soit sur la voie publique.
Ou des mots de passe aussi, peut-être.
Ou des mots de passe, ou le mot de passe pour connecter à la banque, ou ce type de choses, ou vos données de santé, ou ce type de choses. C'est-à-dire que tout ça, ça peut être, récupéré via le keylogger.
Donc, ça veut dire que les hackers peuvent, par le keylogger, potentiellement intercepter un mot de passe important,
Oui, complètement. Complètement.
Qu'ai-je fait ? J'ai créé une vidéo en double écran. La première partie montre la vidéo que vous regardiez. Vous avez bon goût. Ha ha ha. Et la deuxième partie montre votre webcam. N'essayez pas de trouver et détruire mon virus. Toutes vos données sont déjà enregistrées vers un serveur distant.
Ça veut dire toutes vos données sont enregistrées à distance. Et comment ce serait possible donc, et par quels moyens et... Comment il pourrait les garder, en fait, les conserver ?
En fait, lorsqu'il utilise le RDP ou autre protocole, en fait, ce qu'il regarde, il est au niveau de sa machine. Donc, c'est complètement possible qu'il enregistre ça en temps réel tout ce qui se passe et qu'il le sauvegarde. Ouais. Ce qui se passe au niveau du micro, s'il a décidé de l'activer, ce que vous êtes en train de regarder, la webcam, les expressions du visage capturées par la webcam, tout ça. Comme, en fait, il le voit voix également. Donc du coup, comme vous, vous êtes en train de regarder une série ou quelque chose, vous pouvez sauvegarder si vous souhaitez. Bah lui, pareil.
N'essayez pas d'entrer en contact avec moi, les antivirus ou services de sécurité. Formater votre disque ou détruire votre ordinateur ne vous aidera pas non plus, puisque vos données se trouvent déjà sur un serveur distant. Je vous garantis que je ne vous dérangerai plus après votre paiement, car vous n'êtes pas ma seule victime. C'est le code d'honneur des hackers.
Qu'est-ce que c'est, le code d'honneur des hackers ?
Bah, ça dépend des hackers. Ça dépend des hackers. Il y en a que...
Il y a une Bible qui circule.
Non, il y en a que lorsqu'on les paye, ils se voient un peu comme voilà, un service provider, un fournisseur de services. Et pour eux, c'est un boulot. Et donc, du coup, il y en a que, voilà, c'est pas, ils ne le font pas forcément voilà, par méchanceté ultime. C'est juste pour eux un boulot. Et donc, du coup, ils délivrent un service. Donc, pour eux, vous leur donnez l'argent, c'est bon, c'est terminé. Mais on va dire que ce n'est pas forcément la majorité des hackers.
Ne m'en voulez pas, chacun son travail. Vous voulez savoir ce que vous pouvez faire ? Eh bien, à mon avis, 520€ est un juste prix pour notre petit secret. Vous effectuerez le paiement par Bitcoin. Si vous ne connaissez pas, recherchez comment acheter des Bitcoins sur Google.
Ça a un nom, ça, c'est le ransomware, c'est ça ? Vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Un ransomware, c'est un peu plus que ce type de choses. C'est-à-dire que, en fait, le ransomware, c'est lorsqu'il s'installe au niveau de votre poste de travail, vous n'avez plus accès à vos fichiers, en fait. Et ça bloque, ça est un cran au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a le cran où ça bloque l'accès à vos fichiers, il y a le cran où ça bloque le fonctionnement total de votre poste de travail. Du coup, on va dire, ça, le phishing pour vous demander de l'argent. Voilà, ça, il vous suture de l'argent. Le ransomware, c'est carrément, il bloque votre capacité de travailler si vous ne payez pas. Ouais.
Là, le hacker nous donne son numéro de portefeuille Bitcoin pour nos auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas. Est-ce que vous pouvez rapidement expliquer ce que c'est le Bitcoin et le portefeuille et comment ça fonctionne ?
Alors en fait, le Bitcoin, c'est une monnaie, donc du coup virtuelle, qui permet de voilà payer des hackers ou autres. Hein, ça c'est voilà. Et donc du coup, il y a en fait des buralistes en France chez qui on peut aller acheter des bitcoins. Donc tapez sur internet bitcoin plus buraliste plus France, vous allez voir quelques buralistes qui le font. Et en fait, une fois que vous avez en fait ça, votre bitcoin, il y a des sites en fait où ça a des wallets par rapport au bitcoin, et vous entrez le numéro qui vous est indiqué et puis vous faites le virement. C'est, on va dire, une sorte de virement bancaire.
Et c'est une monnaie qui, dans les dernières années, a pris beaucoup de valeur, il me semble.
Elle a pris de la valeur, ça a beaucoup effectivement de valeur, mais on va dire c'est quand même assez incertain. On ne sait pas d'où ça vient. Ça, c'est comme si c'était voilà, il y avait une bulle et on ne sait pas est-ce que ça va perdurer ou est-ce que ça va s'arrêter. En fait, on ne sait toujours pas qui a créé le Bitcoin, donc qui a créé en fait enfin tout ce qui est sous-jacent au Bitcoin. Donc du coup, enfin voilà, ça, c'est assez particulier.
Donc peut-être que cette aura de mystère fait que c'est une monnaie de prédilection pour les hackers notamment.
C'est surtout, oui, ça, qu'ils puissent voilà, les utiliser et les récupérer avec un minimum de suivi des autorités. Mais bon, ça, c'est pas dit non plus.
Vous avez 48 heures pour effectuer le paiement. J'ai un tracker dans ce mail et à ce moment, je sais que vous avez lu ce message. Si je n'obtiens pas les bitcoins, j'enverrai certainement l'enregistrement vidéo à tous vos contacts, y compris vos parents, vos collègues et ainsi de suite. Cela dit, si je reçois le paiement, je détruirai la vidéo immédiatement.
Il y a quand même eu pas mal de scandales. Je pense notamment à Uber qui avait eu un scandale où un hacker avait hacké carrément la liste de ses clients, les noms, les cartes bleues, tout ça. Et Uber avait payé le hacker pour justement que ces données ne soient pas utilisées. Et moi, je voulais savoir, est-ce que ça veut dire que derrière, les hackers détruisent vraiment les fichiers ou...
Pas sûr. Et franchement, ça, ils n'ont pas intérêt à le faire. Hein.
Bah oui.
C'est pour ça qu'on peut... Voilà. C'est-à-dire que de miser sur la bonne foi d'un hacker, on va dire, c'est assez hasardeux. Mais voilà, il y en a que vraiment, ils le font. Donc du coup... Mais franchement, on ne peut pas le garantir. C'est le sens même d'être un hacker.
On va rentrer un petit peu dans la partie... théorie du complot, mais est-ce que vous pensez que ces techniques de hackers sont utilisées aussi par par exemple des entreprises qui peuvent notamment accéder à nos données via qu'on donne au final de manière consentie.
En fait, en termes techniques, c'est possible. Après, en fait, c'est-à-dire que déjà, les entreprises, ils sont drivés par les besoins de faire de la performance, d'avoir du résultat, de réduire les coûts, etc. Ce qui impacte, en fait, les chantiers IT et les chantiers métiers qu'ils font. Donc, du coup, ils peuvent, à partir des données, faire plein de choses. Mais est-ce que c'est vraiment...
Donc, espionner leurs clients, ça ne leur sert à rien, au final.
Tout ce qui est profiling, justement, la GDPR, ça, la loi, la réglementation européenne.
Le GDPR, RGPD en français, c'est le Règlement Général sur la Protection des Données. Appliqué le 25 mai 2018, il renforce la protection des données des habitantes et habitants de l'Union européenne en imposant, entre autres, aux organismes de recenser l'utilisation des données personnelles de leurs usagers et d'analyser les risques auxquels elles sont soumises. Mais surtout, le RGPD sanctionne lourdement les entreprises contrevenantes, jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires. C'est pour ça que vous avez vu plein d'alertes et de fenêtres pop-up sur les sites que vous visitez habituellement au moment de la mise en place du RGPD.
Pour une entreprise, ça, son intérêt, c'est de le comprendre pour lui délivrer le meilleur service et être sûr de le retenir pour réduire le churn. Donc, du coup, c'est-à-dire que là, ok, mais pour, on va dire, d'autres usages, c'est pas forcément, on va dire, dans leur intérêt premier de faire ce genre de choses.
Si vous avez besoin de preuves, répondez par oui et j'enverrai la vidéo à 6 de vos contacts. C'est une offre non négociable. Cela étant dit, ne me faites pas perdre mon temps et le vôtre en répondant à ce message.
Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'utilisateurs, pour éviter le phishing, de se faire hacker notamment, on entend aussi beaucoup de mails qui arrivent en disant « on a votre mot de passe » et là, ils sortent un mot de passe qu'on a utilisé il y a quelques années un peu partout sur plein de sites différents. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et pourquoi il faut peut-être pas faire ça ?
Alors en fait, le fait que quelqu'un possède votre mot de passe ne veut pas dire grand-chose en soi. Parce que, en fait, on peut aller sur le Darknet, acheter des listes d'adresses e-mail avec mot de passe associé. Donc, par exemple, les leaks qui sont passés à Yahoo ou autre. Donc, du coup, le fait qu'il possède le mot de passe ne veut pas dire forcément qu'il a pu avoir accès à vos données si vous avez par ailleurs changer ce mot de passe. Par contre, si vous ne l'avez pas encore changé,
ça
on va dire récemment, parce qu'il faut le changer régulièrement, là, potentiellement, si c'est un hacker consciencieux, avant de vous envoyer le mail, il aurait vérifié est-ce que le mot de passe marche ou pas. Mais ce n'est pas dit non plus. C'est-à-dire que, en fait, il faut comprendre que les hackers, ils vont, on va dire, au plus juste, c'est vraiment presque des, voilà, dans une logique de businessman. C'est dans une logique de meilleure qualité prix et donc du coup le minimum possible d'efforts pour le maximum de résultats. Donc du coup ça, si pour eux ça marche d'envoyer comme ça à l'aveugle et les adresses et les mails et les mots de passe et que ça marche, c'est bon coup pour eux.
D'accord. Donc en termes de mots de passe, l'idée c'est d'en changer tous les combien de temps à peu près ?
Complètement, on va dire tous les mois, tous les deux mois.
Tous les mois changer son mot de passe de boîte mail.
Vraiment, vraiment. Ça avec en plus là ce qui se passe, de plus en plus de leaks, de plus en plus de sociétés qu'on utilise en fait leurs services pour la messagerie ou autre, qui se font hacker. Franchement, c'est une bonne pratique et en plus vraiment d'utiliser des mots de passe différents par service parce que enfin il y en a malheureusement qui utilisent le même mot de passe et pour leur travail et pour leur vie personnelle.
Est-ce que vous avez peut-être d'autres bonnes pratiques
Oui, tout à fait. Alors, lorsqu'on reçoit un mail, il faut absolument en fait analyser le contenu. Analyser en fait l'adresse du émetteur. C'est-à-dire que voir est-ce que parce qu'en fait des fois on a le nom prénom qui est affiché et lorsqu'on clique on voit en fait que l'adresse elle est structurée bizarrement. Aussi d'analyser en fait les liens et de voir parce que des fois en fait la structure du lien lui-même si on analyse de près, on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Aussi, par rapport au contenu du mail. Par exemple, si c'est un mail non sollicité, Là, on peut se poser des questions. C'est un mail qui nous incite à prendre une décision très rapidement. Là aussi, il faut ne pas répondre aux injonctions et vraiment pas au sentiment d'urgence. Et de vérifier en fait la véracité des données qu'on voit en appelant la personne référente. Typiquement, par exemple, votre amie, elle est
de l'amie américaine.
Elle est en galère, de l'appeler. Pour voir est-ce que c'est vrai ou pas, et ne pas forcément directement de faire le virement.
Et dans le cas de notre hacker, du coup, le meilleur moyen, c'est de supprimer le mail, je suppose, sans rien essayer de faire.
Dans votre cas, normalement, il n'y a pas... C'est-à-dire que si la personne qui a reçu ce mail-là est réellement allée sur ce site-là, peut-être, mais ça reste encore du 20%, 30% de cas où ça a été réellement ciblé. Mais si il n'y a pas la personne qui l'a reçu n'est jamais allée sur vraiment à ne pas le prendre en compte du tout.
Est-ce que il y a des moyens de dénoncer peut-être ces mails frauduleux, il y a un fichier où on peut les reporter?
Il y a le dispositif Pharos, donc qui est fourni par l'État, où justement on peut remonter ce type d'incident. Ce qui permet du coup d'alimenter leur propre base et de pouvoir donner ces informations-là aux structures qui vont bien.
Dernière question, est-ce qu'il faut scotcher sa webcam?
Complètement. Moi, je le fais tout le temps. Parce que, tout simplement, on n'est jamais à l'abri d'avoir cliqué sur quelque chose qui prend le contrôle de notre PC. Donc, franchement, le faire, on ne sait jamais.
Vous avez donc compris l'essentiel. N'oubliez pas de changer vos mots de passe tous les deux mois, ne cliquez pas sur les pièces jointes dans les mails douteux et scotchez votre webcam. Pour aller plus loin, on vous conseille la lecture d'un article intitulé « Attention, des arnaqueurs utilisent vos mots de passe pour un chantage à la webcam piratée » publié par le site Numérama. Jetez également un œil à l'article « Le règlement général sur la protection des données, RGPD, mode d'emploi » publié par le gouvernement français. N'hésitez pas à signaler les phishing que vous recevez sur internet-signalement.gouv.fr. On vous mettra tous ces liens dans la description de l'épisode. Merci à Arwa Biri pour ses réponses. Programme V, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess et réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B @binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.